9. Un roi chapitre 19. À partir du verset 9, c'est l'histoire d'Élie. Élie, c'est un serviteur de Dieu. C'est l'un des rares qui a été consacré au temps. Un roi chapitre 19. Lorsque on lit l'histoire d'Élie, on ne voit pas de femme. Donc, peut-être qu'il n'était même pas marié. Au fait, c'est le genre de serviteur de Dieu qu'on appelait homme de Dieu. Pourquoi on les appelait homme de Dieu? On les appelait homme de Dieu parce qu'ils étaient totalement consacrés à Dieu. Ils vivaient que pour Dieu. Ils n'avaient pas une vie normale comme tous les humains, avec femme, enfant, tout ça. C'est pourquoi on les appelait homme de Dieu. On les appelait aussi homme de Dieu parce qu'ils aimaient beaucoup Dieu. Homme de Dieu. L'homme de Dieu, Élie. Toutefois, il est arrivé un moment difficile dans sa vie. Donc, on arrive donc, au verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Ça veut dire que j'ai servi fortement l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète, à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, et dont la bouche ne l'a point embrassé. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la douzième. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Et lui répondit, « Va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. » Voilà. Élie, dans son service, Dieu l'a utilisé pour redresser le peuple d'Israël qui était en train de faire de l'idolâtrie. Et il a même parlé franchement au roi, sans mâcher ses mots. Et à cause de cela, la femme du roi Jézabel a commencé à poursuivre Élie. Et Élie, donc, se retrouve dans cette caverne, dans cette histoire. Et Dieu dit à Élie, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais je fuis. Parce qu'on cherche à m'enlever la vie. Pourtant, il dit à Dieu, mais pourtant moi je t'ai servi avec zèle, avec puissance, avec force. Je me suis donné tout entier pour te servir. Mais là maintenant, voilà, on cherche à monter la vie. Je suis fatigué. C'est là que Dieu dit à Élie, bon, si c'est comme ça, tu vas chercher d'autres personnes. Je vais te montrer les gens que tu vas oindre pour qu'ils continuent le travail après toi. Et en particulier, c'était Élisée, que Dieu a demandé à Élie d'oindre à sa place. Ça nous montre quelque chose. Quel que soit ce qu'on peut faire pour Dieu, personne n'est indispensable. Parce que Élie, ça fait partie, donc, entre guillemets, des plus grands serviteurs de Dieu par son comportement, par les miracles qu'il a fait, par la prédication de la vérité. D'ailleurs, même Jésus dit qu'avant son retour, Élie viendra d'abord. Ça veut dire l'esprit d'Élie. Donc, on voit l'importance d'Élie, puisque Élie est le seul, à part, le seul avec Enoch à être enlevé. Élie et Enoch ont été enlevés. Donc, on n'a pas connu la mort. Ça montre quelle importance Élie avait aux yeux de Dieu. Il n'a même pas connu la mort physique. Il a été enlevé. Et même quand Jésus était dans la montagne de la transfiguration, quand il a été transfiguré, il y avait Élie et Moïse qui étaient avec lui. Donc on voit l'importance d'Élie dans la pensée divine. Mais pourtant, malgré son importance, Dieu voit que Élie commence à compter ce qu'il fait pour Ahab, il a fait pour lui. Et lui dit, mais j'ai déployé mon zèle, même d'ailleurs j'ai protégé les prophètes de Dieu, j'ai fait ceci pour Dieu, j'ai prêché la vérité, mais voilà, on cherche à m'enlever la vie. Et Dieu dit, bon, si c'est comme ça, tu vas oindre Élisée à ta place. Et nous le savons que Élisée a été oint d'une manière double par rapport à Élie. Il a reçu une double portion par rapport à Élie. Donc Élisée a fait encore plus de miracles qu'Élie. Élisée a prêché la vérité fortement encore, à tel point que quand il a guéri, il a prié pour le Naaman, le riche, le général syrien, il lui a amené de l'or, des bijoux, beaucoup de richesses. Élisée a dit, je ne prends pas. Donc, c'est rare de voir de telles personnes qui prient pour quelqu'un, on lui donne l'argent, il dit non, je ne prends pas. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Donc, il peut y en avoir, mais c'est rare de telles personnes qui donnent gratuitement les choses de Dieu. Et Élisée l'a fait. C'est pour nous dire que personne n'est indispensable. Je veux nous exhorter à servir le Seigneur, à ne pas compter les choses, à ne pas penser que ce que tu as déjà fait, c'est beaucoup. Parce que tu te compares à d'autres personnes. Ne te compare pas à d'autres personnes. Regarde par rapport à ce que Dieu a fait pour toi. Il a donné son Fils Jésus. Le Fils de Dieu est descendu dans la gloire, il a pris un corps humain. Est-ce que toi, tu prendrais le corps des chiens pour sauver les chiens, des chiens? Tu prendrais un corps de fourmis pour sauver les fourmis? Tu vas bien rester homme et tu vas chercher à les sauver en restant homme. Hein? Tu ne vas pas dire, je veux devenir fourmi comme ça, je veux les défendre. Non. Mais le Seigneur a pris le corps d'homme. Il a été brisé, maltraité. Nous devons servir le Seigneur sans limite. Mon terme, c'est ça. Servons le Seigneur. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas arrêter par le passé. On a l'impression que, ah oui, moi depuis 15 ans je sers le Seigneur, moi depuis 20 ans je sers le Seigneur, mais moi d'ailleurs je ne vole pas, je ne fais pas ceci. On commence à se comparer à d'autres personnes et on croit que nous on fait beaucoup. Non, le Seigneur a fait extraordinairement beaucoup pour nous, il a donné son propre Fils. Donc il n'y a pas de limite. Et Élie commence à manifester une certaine limite parce que dans sa logique il dit que j'ai beaucoup fait, mais là voilà on me poursuit pour me tuer. Dieu dit, mais si c'est comme ça, si tu penses que tu as beaucoup fait, je vais te rembourser par quelqu'un d'autre. Je peux nous dire, bien-aimés, saisissons le temps du Seigneur. Quand l'esprit souffre, il faut saisir et servir le Seigneur. Parce que le Seigneur est capable de remplacer quelqu'un d'autre. À ta place, ce qu'il avait prévu de faire avec toi, s'il a pu remplacer Élie. Quand vous lisez l'histoire d'Élie, vous allez voir que c'est un homme spécial. Mais il a pu le remplacer. Il a pu le remplacer. Et en donnant à Élisée même une portion double. Quand le Seigneur nous pousse à le servir, il faut le servir. On ne doit pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Dans Romains 12, 11, l'apôtre Paul dit, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. C'est sans limite jusqu'à la mort. Je connais un homme. J'ai lu l'histoire d'un homme.
Un chrétien qui a perdu, suite à une maladie compliquée, il a perdu l'usage de tous ses membres. Il ne pouvait que bouger son œil. Mais il avait un ami professeur qui avait conçu un ordinateur qui lui permettait, avec son œil, de pouvoir communiquer et de pouvoir faire des choses. Et donc, avec son œil-là, il a pu traduire la Bible dans des langues qui n'avaient pas encore été touchées. Parce qu'il a étudié le chinois, il a étudié. Donc, rien qu'avec son œil, il a pu faire ce travail-là à travers l'ordinateur que son ami avait conçu pour lui. On voit qu'un homme qui n'arrivait qu'à bouger son œil a servi le Seigneur d'une manière terrible, jusqu'à traduire la Bible dans des langues qui n'étaient pas encore, où il n'y avait pas encore de traduction. Cet homme-là pouvait se fâcher, dire, mais non, mais il me reste qu'un œil, voilà, Dieu me laisse comme ça, allez, moi aussi je m'endors, je meurs. Ah non, il a dit non, tant que je peux bouger l'œil, cet œil-là va servir le Seigneur. J'ai l'habitude de dire aux gens qui m'entourent, moi je dis tout le temps, Seigneur, ma vie doit te servir. Je ne veux pas que ma vie soit inutile, ma vie soit un passe-temps sur la terre. Ma vie doit te servir, parce que ma vie, c'est toi qui l'as donnée. Je t'appartiens. C'est ce que l'apôtre nous dit, c'est la 1 Corinthiens 6, 19, vous ne vous appartenez pas, vous appartenez au Seigneur. Et notre vie doit servir le Seigneur, notre vie ne doit pas servir un système, une façon de vie chrétienne. Non, ça doit servir le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui va nous conduire. Il a dit à Pierre, quand tu étais petit, tu faisais ce que tu voulais, mais quand tu seras vieux dans la maturité, quelqu'un d'autre te conduira et t'amènera où tu ne voudras pas. L'esprit conduit. Il a dit, l'esprit souffle. On entend le bruit, mais on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Donc quand l'esprit saisit un chrétien, il ne peut pas contrôler. Aujourd'hui, nous contrôlons trop Dieu. C'est nous qui décidons sur tout. On décide quand on va prier, on décide quand on va aller là-bas, on décide sur tout. Mais c'est l'esprit qui va nous conduire. Bien sûr, à travers sa parole, parce que beaucoup s'inventent l'esprit qui les conduit, mais en contredisant la parole. Non, l'esprit va nous conduire, mais à travers la parole de Dieu. Mais c'est une puissance qui nous saisit. Et vous savez, même les plus grands serviteurs de Dieu finissent par oublier ça, que c'est l'esprit qui est en train de travailler. Élie a cru que c'était lui qui avait déployé le zèle. Mais le zèle qu'il avait déployé venait de Dieu. Le zèle que tu déploies pour Dieu, ça vient de lui-même, ça ne vient pas de toi. Donc soyons dans une attitude d'humilité. Faut pas croire, ah mais moi je fais beaucoup, parce que tu te compares à quelqu'un d'autre. Mais non, compare-toi à Jésus. Est-ce que tu fais comme Jésus? C'est ça la comparaison qu'il faut faire. Nous devons servir. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, que ce soit par rapport au salut des âmes, que ce soit par rapport à élever le nom de l'Éternel. Là où je suis, que les gens sachent que Dieu existe. Qu'ils se convertissent ou pas, mais au moins, moi, mon corps et ma vie va servir à ce que Dieu soit pour lui. Comme le Seigneur a dit, mais si les hommes se taisent, les pierres vont crier que Dieu est grand. Donc nous allons laisser notre place aux pierres. Non, bien-aimé. Lisons dans Luc 9, 57. Luc 9, 57. Personne n'est irremplaçable. Sache que si tu ne saisis pas l'appel de Dieu, Dieu prendra quelqu'un d'autre. Personne n'est irremplaçable. Luc 9, 57. Il est écrit ceci. Luc 9, 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Amen. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Bien-aimé, ce verset ne veut pas nous dire que Dieu est contre le fait qu'on enterre nos parents. Non. Le Seigneur veut dire tout simplement que pour beaucoup de choses de la terre, il y a des gens du monde qui s'en occupent. Nous mettons l'essentiel de nos vies sur le fait d'annoncer le royaume de Dieu aux gens. Nous nous laissons freiner par beaucoup d'éléments. Il y a des gens qui sont freinés parce que pour servir Dieu, ils veulent que ils soient au même niveau que leur femme ou bien leur mari. Donc tant que leur mari ou leur femme ne sont pas au même niveau qu'eux, ils attendent. Mais le temps passe. 1 Corinthiens 7 nous dit que ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés parce que les jours sont courts. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 7. Les jours étant courts, que ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut imaginer c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est quelqu'un qui souffre des milliards d'années. Ça ne s'arrête pas. Le feu ne s'arrête pas. Les vers, ça ne s'arrête pas. Les asticots, ça ne s'arrête pas. Des milliards d'années. Alors, donc, nous, on va attendre pour aller annoncer le royaume à ces gens-là. En discutant, en passant son temps à vouloir conquérir son mari, conquérir sa femme, je ne sais pas conquérir qui. Le Seigneur a dit, voilà, c'est le royaume. Il faut me servir. Il y a des gens qui attendent d'avoir un bon boulot. Mais non, le Seigneur dit, va annoncer mon royaume. Et ce qui est beau, c'est qu'il dit, si vous choisissez mon royaume, vous aurez tout le reste. Il ne nous envoie pas au suicide. Il dit, mais obéissez à moi d'abord. Tout le reste vient. Mais nous, on est en train de poser des conditions. D'abord, j'arrange avec telle personne. J'arrange avec mes parents. J'arrange avec mon cousin. Sinon... Non, bien-aimé. Dieu a besoin de ta voiture. Il dit, mais oui, mais d'abord j'arrange avec un tel. Mais non, bien-aimé. Dieu, quand il t'appelle, il faut saisir ce moment-là. Il a besoin de ta maison. Tu dis, non. D'abord je mets la peinture. Je fais, mais lui, Dieu, qui va attendre que tu mettes la peinture pour sauver les âmes, pour élever son nom. Non, bien-aimé. Donc c'est quand Dieu nous appelle, c'est là qu'on doit le servir. Quand Élie a pris le manteau, il l'a jeté sur l'Élysée. Élisée a tout abandonné, il est parti dire au revoir à ses parents, il a suivi Élie. Il était en plein boulot. Mais non, on fixe trop de conditions à Dieu, on dit mais il y a ça d'abord, mais Dieu sait qu'il y a tout ça. C'est ça. Le problème, c'est écouter la voix de Dieu. Et on voit l'apôtre Paul, à un moment donné, il a travaillé. Il a travaillé puisque la voix de Dieu lui a mené à travailler, le pousser à travailler en ce moment-là. Parce que les Corinthiens parlaient beaucoup. Il a préféré travailler pour ne pas que ça devienne une occasion de chute pour l'œuvre de Dieu. Il savait qu'avec les Corinthiens, si je ne travaille pas, ils vont croire que je suis en train de manger leur argent. Donc je vais travailler. Ils vont bien voir que je ne dépends de personne, je travaille. Pourquoi? Parce qu'il veut que son message passe. Annoncer le royaume de Dieu et l'apôtre Paul pouvait, il dit lui-même, j'ai le droit de ne pas travailler. Mais j'ai travaillé pour faciliter l'évangile. Parce que tu es avec des gens qui sont égoïstes, qui sont peintres. Il dit, si je ne travaille pas, ma prédication va être bloquée. Or, la priorité, c'est annoncer le royaume de Dieu. Donc, pour éviter qu'il y ait un blocage dans l'annonce du royaume de Dieu, je vais travailler. Et le même Dieu aussi peut nous amener à ne pas travailler pour que sa puissance se manifeste. Donc, c'est lui qui nous conduit. Lui nous dit, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Ne dis pas dire, mais non, mais je dois d'abord aller enterrer. Non. Laisse les morts enterrer leurs morts. Là, suis-moi. Toutes les excuses qu'on se donne. Mais je suis faible. Je ne suis pas appelé. Non. Si tu as entendu la voix du Seigneur, si tu le Saint-Esprit t'a poussé, c'est qu'il veut que tu le serves. Il n'y a pas d'excuse devant le Seigneur. Et quand on exagère avec les excuses, le Seigneur te remplace. Comme il a remplacé lui. Il a dit, bon, qu'est-ce que moi j'ai besoin de sauver les gens, maintenant toi tu me retardes. Mais je te remplace. En bon terme, hein, ce n'est pas en mauvais terme. En bon terme, il a dit Élie, bon, toi tu vas prier pour Élisée. Et puis, prends ta place. Et Élie a été enlevé. Je pense que c'est une façon aussi de montrer que sa mission n'était pas finie. Et qu'il enlève carrément, quoi. Il le prend. Et c'est Élisée qui devait finir maintenant la mission d'Élisée. Parce que celui-ci commençait à faire des polémiques. J'ai beaucoup bossé, mais voilà là les conséquences. Tu ne peux pas servir Dieu si tu commences à avoir ce langage-là. Oui, mais j'ai beaucoup aidé les gens, mais voilà, c'est le retour, c'est dans mon nez de singe. Non, nous devons faire d'une manière illimitée, sans nous arrêter. Que les gens soient mauvais, qu'ils répondent. positivement ou négativement, nous, nous devons servir le Seigneur. C'est le Seigneur que nous servons. Nous ne devons pas rester, comme disait un évangéliste, il y a des gens, ils veulent tellement bien faire les choses que finalement ils ne font rien et les âmes sont en train de mourir. La Bible nous dit quoi dans Jean 16, 13, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. La Bible nous dit quoi, la parole est la vérité. Mais la parole n'est pas compliquée, toute la vérité est là. Donc, saisissons la parole et avançons. On ne peut pas rester là comme certains dans des couvents, en train de lire la parole, de méditer la parole. Ils ne font rien comme un... On m'a raconté l'histoire d'un pasteur qui était en train de lire sa Bible devant chez lui. Et il y a un passant qui lui demande de l'eau à boire. Il dit au passant, toi tu penses que je vais arrêter de lire la Bible pour te donner de l'eau à boire. Le Seigneur là a puni sévèrement cet homme de Dieu là. Parce qu'il n'avait pas compris l'évangile. Mais ce que tu lis là, t'exhorte justement à aider quelqu'un qui a soif. Maintenant que quelqu'un a soif, toi tu dis moi je suis en train de lire. Beaucoup cherchent à devenir trop spirituels au point qu'ils ne font rien. C'est devenu des journalistes. Non, bien-aimés, nous devons travailler pour sauver les âmes. Nous devons travailler pour louer, adorer le Seigneur. Et le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, nous conduira. Dieu est fidèle. Il ne nous laissera pas nous tromper. Il nous conduira. Nous devons être sans intérêt. Élie a commencé à dire, mais moi je fais beaucoup. Quand tu commences à avoir ce langage-là, c'est fini. Parce que c'est la grâce, par la grâce de Dieu que nous pouvons faire ce que nous faisons. Et à partir de là, Dieu a dit, je te remplace. Et bien-aimé, Dieu a appelé beaucoup de gens. Il est écrit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Beaucoup sont appelés, beaucoup sentent la puissance de Dieu. Mais l'élection, c'est pour ceux qui vont se laisser faire par Dieu. Et tous ceux qui vont se créer des blocages tout seuls, parce que ils veulent contrôler Dieu, ils veulent... Non, on ne peut pas contrôler Dieu. Vous savez, il y a un moment donné... Le Seigneur a dit à Pierre, quand tu seras vieux, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. C'est-à-dire, quand on est jeune chrétien, on croit que c'est nous-mêmes qui dirigeons, qui décidons, qui faisons. La force même vient de nous, on se trompe. Et quand on devient mature, Dieu te fait comprendre que mais ce que tu as là, c'est moi qui ai donné. Même tes inspirations là, c'est pas toi, c'est moi. Et je peux t'amener où je veux. Et Pierre demande maintenant, et pour l'autre, Pierre a voulu polémiquer. Comme on entend, aujourd'hui les gens, au lieu de suivre, servir le Seigneur, ils regardent à l'autre. Non, toi, sers le Seigneur. Pierre dit, et Jean, son sort, ça sera quoi? Jésus dit, c'est pas ton problème. Toi, suis-moi. Amen. Toi, suis-moi. C'est pas ton problème ce que je fais avec je ne sais qui. Toi, suis-moi. C'est tout. Chacun va suivre le Seigneur. On n'a pas de permission à demander à un humain. On doit suivre le Seigneur. Et le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. En respectant la parole. Élisée ne s'est pas proclamé tout seul prophète. C'est Dieu qui a dit, Élie, va rendre prophète. Et si Dieu vraiment nous appelle, il utilisera des gens pour nous confirmer cet appel-là, pour dire, viens. Il va faire ça. Donc ne soyons pas inquiets. Nous seulement soyons dans une attitude de servir Dieu. Mais tu peux dire, mais maintenant qu'est-ce que je fais? Mais commence à prendre en charge le fait que ta vie doit être un sujet d'adoration pour Dieu. Ma vie doit être une lumière pour le Seigneur. On n'a pas besoin qu'on te dise, bon, va évangéliser à Saint-Laurent ou à Mana. Non. Commence par, et la Bible dit, chercher d'abord le royaume de Dieu. C'est-à-dire que ta vie d'abord doit être le siège du royaume de Dieu. Le premier territoire à conquérir, c'est toi-même. Et ensuite, quand Dieu t'a conquis, naturellement, il te montrera ce que tu as fait. Personne ne va forcer. Vous voyez, évidemment, les bien-aimés qui évangélisent dans les rues à Rouen, ils ont rencontré une personne à qui ils ont parlé du Seigneur. Elle a dit, oui, je me convertis tout de suite. Mais eux-mêmes, ils étaient étonnés. Mais pourquoi, comment ils peuvent se convertir facilement comme ça? Mais la Bible dit, il n'y a rien d'étonnant devant l'Éternel. C'est pour nous dire, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Cette personne-là, sa maman venait de lui dire des choses sur le Seigneur, sur Dieu. Elle avait fait le têtu. Donc, dans la rue, quand elle rencontre les bien-aimés lui disent la même chose. Alors, c'est là qu'elle a compris que Dieu est en train de la chercher vraiment Allez, bon, je me convertis.
Dieu prépare toutes choses.
Donc, le plus important d'abord, parce que ce frère-là, vous savez, quand on évangélise dans les rues, les réponses à 90% sont négatives. Allez, en tout cas en France. Mais c'est pas grave. Ils ont laissé Jésus régner dans leur vie. Ils continuent à faire leur travail. Et puis d'un coup, une personne vous dit, mais moi, je peux me convertir tout de suite. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Parce qu'on a accepté de se laisser conduire par Dieu. On n'a pas fait des exigences. Mais avant qu'on évangélise, il faut qu'on fasse d'avoir un paralytique marché. Non, il n'y a pas de conditions. Le Seigneur dit, il faut servir. Servez le Seigneur. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. Rien ne doit nous freiner. Ni le mariage, ni l'argent, ni le travail. Rien ne doit nous freiner. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui meurent. Vous savez, moi, à chaque fois que des gens comme ceux qui viennent de se passer, là, Johnny Hallyday qui meurt, tu te dis, mais voilà quelqu'un qui va en enfer tranquillement comme ça. Tranquillement. Le Seigneur a besoin que nous puissions parler de lui d'une manière ou d'une autre. Il a besoin que nous fonctionnons. Alors nous devons arrêter de polémiquer, d'entrer dans des discussions inutiles. La Bible, Paul dit à Timothée, l'homme de Dieu n'a pas entré dans les querelles inutiles. L'homme de Dieu doit se laisser poindre et aller annoncer le royaume de Dieu. Et l'Esprit Saint nous conduira dans toute la vérité. Si vraiment Dieu règne dans notre vie, l'Esprit Saint, avec cette Bible, va nous conduire dans toute la vérité. D'abord, il faut commencer par soi-même. Deuxièmement, il y a un grand travail à faire dans nos familles. Qui peut dire que toute sa famille est à Christ? Il y a un grand travail de salut dans la famille. Tu prends ça en charge. Tu n'as pas besoin qu'on te dise, va évangéliser en New York. Il y a la famille évangélisée. Pas forcément en parlant, en commençant par des prières sérieuses. Chercher la force de Dieu pour la famille. Entrer dans un combat spirituel comme Jacob était entré dans le combat. Daniel était entré dans le combat pour son peuple. Il y a la famille. Il y a le quartier. Donc on y va. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'âmes à sauver. Il y a la famille du Seigneur. Ma famille, je veux qu'elle glorifie l'Éternel. Et tu prends ça en charge. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres choses. Où Dieu nous attend. Mais il veut qu'on soit éveillé. Donc lisons pour clôturer Romains 12, 11. Romains 12, 11. Romains 12, 11. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Donc soyez dans la force de Dieu. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Mais quand on dit ça, ça ne veut pas dire que ça viendra de toi. Mais toi, tu dois décider. Tu dois dire, Seigneur, moi, je veux vivre pour toi. Je veux fonctionner avec toi. Voilà, c'est ça. On doit choisir. Ayez du zèle et non de la paresse. N'entrons pas dans les discussions inutiles. N'entrons pas dans les distractions, combat, lutte entre églises, des trucs comme ça. Non, n'entrons pas dans ça. Servons le Seigneur. Et les vrais serviteurs qui servent aussi le Seigneur, nous allons nous rencontrer dans les champs de travail. On va se donner la main d'association, mais pendant qu'on travaille. On va pas faire le l'écuménisme. Non. Ça, c'est des. Et pour parler humain, nous on doit servir le Seigneur. Si quelqu'un est dans la vérité, on se rencontrera sur le champ de travail. Mais n'entrons pas dans les querelles, dans les distractions, l'argent. Il y a des gens qui ont peur par rapport à l'argent, mais le Seigneur dit l'or et l'argent lui appartiennent. On prie, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je clôture quand même avec un avertissement. Dans Joël 2, 28, le Seigneur dit que dans les derniers temps, il va se servir de jeunes qui vont prophétiser et des vieillards. Mais pourquoi cette précision-là, les vieillards qui vont avoir des songes, les jeunes qui vont prophétiser? Parce que les adultes ont trop de soucis du monde dans leur tête. Les gens qui ont dépassé un certain âge
Ils ont dépassé 24 ans,
ont trop de soucis dans la tête.
Les jeunes et les vieillards, eux, ils sont connectés à Dieu. Ils vont être connectés à Dieu parce que les vieillards se disent, on a peu de temps, on va vivre pour le Seigneur. Les jeunes, eux, ils n'ont pas de logique de dire, j'ai telle famille à nourrir, non.
Il est écrit, donc Dieu va utiliser les jeunes et les vieillards.
Mais Dieu est bon, il veut utiliser aussi les adultes. Mais il faut qu'on comprenne pourquoi ce n'est pas dit les adultes là, à cause des soucis du monde. Les soucis, les adultes aiment beaucoup de polémiques. Il y a un frère qui me disait, mais quand j'étais petit, j'avais l'impression que les adultes n'avaient que des problèmes. Vous savez, quand les jeunes passent au milieu des parents, ils entendent les parents parler de quelqu'un d'autre. Je me dis, mais j'avais l'impression qu'au milieu des adultes, il n'y a que des problèmes. Voilà. Les adultes, ils n'ont que des problèmes. Pourquoi? Les jeunes n'ont pas le temps. Ils peuvent sortir le matin de 8h à 16h et jouer au football. Et ils sont dans l'action. Ils ne sont pas dans le discuter. Mais ma fille dit ceci. Ça va durer 3 minutes, c'est réglé. Allez, ils jouent encore au football ensemble. Mais les adultes, ça va être bon. Après, on va devenir dans tel endroit. Après, on va faire ceci. Après, ça ne finit pas. Il y a des âmes à sauver. Les adultes, ça va être bon. Ah, mais l'autre, ils ont une Mercedes. Bon, s'il faut une BMW, non, les jeunes n'ont même pas ce temps. Les jeunes, même si, dès que son ami a une Mercedes, lui en profite, il va avec lui. C'est ça. Donc l'adulte va dire, ah, moi aussi, il me faut une maison. Moi, donc les adultes sont dans la distraction. Mais Dieu veut que ces adultes deviennent des jeunes dans le Seigneur. Des gens qui vont abandonner les finances. Tous les soucis du monde, le mariage, je ne sais quoi, ils vont abandonner ça entre les mains de Dieu, et ils vont servir. Et le Seigneur, ce qui est beau, je le répète toujours, c'est que lui dit, mais si vous me servez, moi je vous donnerai tout ce que vous désirez là, ça viendra tout seul. Moi je dis même, c'est même si on est intelligent, c'est la bonne technique, tout ce qu'on cherchait à avoir là, on dit, ben, j'oublie ça, moi je sers le Seigneur, mais le Seigneur lui va amener tout ça. C'est facile, tu ne vas plus faire d'efforts, c'est lui qui va ramener. Mais on s'entête, on est toujours dans les soucis du monde. Bien aimé, que personne ne nous distrait. Saisissons l'appel de Dieu. Il y a beaucoup de gens à sauver. Vous savez, les temps que nous vivons, c'est vraiment les temps bibliques qui montrent que l'iniquité a augmenté. Les choses ne sont plus cachées. L'homosexualité n'est plus cachée. Le mensonge n'est plus caché. Donc, et on rigole sur tout ce qui est Dieu à la télé. Donc on vit vraiment les temps de la fin. Donc il y a, maintenant, les paresseux disent quoi? Ah ben c'est le temps de la fin, hein? Nous on reste pur chez nous. Ah non, le vrai serviteur dit quoi? C'est le temps de la fin, donc il y a beaucoup plus de païens à gagner que tout le temps passé. Parce qu'il y a beaucoup plus de païens. Parce que le Seigneur n'a jamais dit que la moisson sera faible dans le temps de la fin. Il a dit qu'il y aura l'apostasie, c'est-à-dire que les prétendus chrétiens vont abandonner la foi. Mais il n'a pas dit que les païens ne vont pas se convertir. Non. Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc même si nous sommes dans les temps de la fin, la puissance de Dieu est plus grande que les temps de la fin pour sauver des gens. Mais il cherche des gens qui vont dire, mais moi je vais servir le Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin, donc il y a beaucoup plus d'âmes à gagner, puisque beaucoup plus sont perdus qu'avant. Donc ne nous laissons pas entraîner par de quelconque distraction. Répondons à l'appel de Dieu. Comme j'ai dit, l'appel de Dieu, ce n'est pas seulement aller à New York. L'appel de Dieu, c'est commencer par soi-même, sa famille et sa montre. D'abord soi-même. Dire, bon, ça suffit comme ça. J'ai servi ma logique, j'ai servi mes raisonnements, ça suffit. Maintenant, je vais servir l'Éternel des armées. Je vais le laisser me conduire. Je vais vivre sa gloire, parce que je suis un enfant de gloire, je suis un enfant du ciel, je suis une fille de Dieu, je suis un fils de Dieu. Donc, ce qui est prévu pour le fils de Dieu, je veux le vivre. Ça suffit de faire les choses avec nos efforts. Vous savez, l'apôtre Pierre, quand il a guéri le monsieur là, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, il a commencé à sauter, il a marché, et les gens sont venus le voir. Il dit, mais Pierre dit, mais pourquoi vous nous regardez? Est-ce que vous pensez que c'est nous qui avons guéri cet homme-là? Ou bien c'est par notre bon comportement chrétien? Il a dit, pas du tout, ce n'est ni notre bon comportement chrétien, ce n'est pas notre puissance, mais c'est le nom de Jésus. Vous savez,
Il faut qu'on en arrive là, c'est-à-dire que Dieu fait des choses dans ta vie où toi-même tu es conscient que là, ce n'est pas moi. C'est vraiment Dieu qui a fait. Et ça t'amène à l'humilité. On dit souvent que les miracles amènent l'orgueil, je ne crois pas. Moi, je pense que l'orgueil vient quand on pense que c'est nous qui avons produit la chose. Mais quand on vit les vrais miracles, on se rend compte que c'est Dieu qui a fait, ce n'est pas moi. Et on est humble. On est humble. On a besoin de vivre l'héritage des fils de Dieu, où Dieu va faire des choses. Nous-mêmes, on est conscients que là, c'est pas moi. C'est Dieu. Et je m'y mets. Donc, c'est ça la réponse à l'appel de Dieu. Répondre à l'appel d'être fils et fille de Dieu. Donc, vivre à ce niveau-là. Vivre à ce niveau. Parce que vous voyez dans les actes des apôtres, et comme on parlait, hier, avant de voyager avec les bien-aimés, aujourd'hui, les chrétiens ont des ennemis partout, dans leurs prières. Seigneur, mes ennemis, il faut qu'ils soient vaincus. Mais est-ce qu'on voit la Bible, dans le Nouveau Testament, les apôtres parlaient tout le temps d'ennemis? C'est dans l'Ancien Testament, parce qu'il y avait des guerres, qu'on parlait d'ennemis. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nos ennemis, c'est les démons. Les humains sont des âmes à sauver. Aujourd'hui, les humains sont devenus des ennemis. Non, les humains sont des âmes à sauver. Que ce soit proche parent, parent lointain, voisin, c'est des âmes. Ça ne peut pas être nos ennemis. Nos ennemis, c'est les démons. Ephésiens 6 nous le dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, c'est les esprits. Aujourd'hui, les chrétiens passent le temps. Bon, mes ennemis, ils me cherchent, mais ils ne mourront pas. Oh, mais non, mais... Nous, on n'a pas ce temps-là. Jésus-Christ à la croix a dit, tout est accompli. Donc, on n'a peur de personne. On va utiliser notre temps pour prier, pour sauver les âmes et glorifier Dieu. Et non pas chercher, se créer des ennemis. Parfois, ce n'est pas des ennemis, c'est juste parce que quelqu'un t'a dit non pour un problème, c'est devenu ton ennemi. Non, les gens sont libres de dire non. Oui. Non, on s'invente des ennemis et on passe le temps à les combattre. Parfois, c'est des amis. Mais juste parce qu'ils ne nous ont pas donné ce qu'on voulait, c'est nous, on les transforme en ennemis. Oh, le bon ami, c'est celui qui te dit la vérité. T'as dit la vérité, ça devient un ennemi. Non, bien aimé. Ne nous laissons pas distraire par tout ça. Servons le Seigneur. Le Seigneur a vaincu nos ennemis à la croix. Il a déjà vaincu à la croix. Il a dit, il les a dépouillés. Est-ce qu'on se rend compte, c'est pas dépouillé. Quelqu'un a le fusil, on lui prend. On lui vide les poches, les munitions, vide. Toi, les rats, vas-y. T'as plus rien. C'est ce que le Seigneur a fait à la croix. Donc, nous, maintenant, le temps maintenant qu'il nous donne, c'est pour va annoncer le royaume. Moi, je me suis occupé des démons à la croix. Toi, va annoncer. Et quand bien même ils viendront sur ton chemin, tu vas leur rappeler ce que moi j'ai fait à la croix. Ils vont sauter, ils vont fuir. C'est cela, bien-aimé. Servons le Seigneur. Prenons cet engagement ce soir de servir le Seigneur. Ça fait triste de voir un humain aller en enfer. Ça fait très mal. Et nous sommes responsables aussi de cela. Parce que c'est à nous que Dieu a confié l'humanité. Il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc ne perdons pas notre temps à chercher des intérêts humains sur la terre, ni à chercher à être connu comme le meilleur. Vous savez, il y a des chrétiens aujourd'hui qui veulent que tout le monde leur dise qu'ils sont bons. Non! Jésus ne passait pas son temps là à dire, je suis un vrai, je suis un vrai. Mais qui n'a pas contesté Jésus? Même Pierre a contesté Jésus. Mais Jésus continue son chemin. C'est propre, sa propre famille. Il dit, mais tu commences à devenir fou. Il continue son chemin. Le fils de l'homme est en chemin, il marche solitaire. Il continue son chemin. Même les apôtres n'ont pas compris qu'on lui a mis beaucoup de parfums. Lui, mais ce parfum-là peut servir à donner aux pauvres. Le Seigneur a dit, mais non, la femme m'a oué parce que vous savez que le jour où Jésus-Christ a été est mort, ils n'ont pas eu le temps de remettre les aromates comme on fait aux morts. Parce que c'était le sabbat qui arrivait. Donc, la femme lui avait mis le parfum à l'avance. Jésus dit, mais elle me met le parfum à l'avance. Et quand Jésus a été crucifié et mis au tombeau, elles n'ont pas eu le temps. Et quand elles viennent 3 jours après, Jésus est déjà ressuscité. Donc, Jésus dit, cette femme-là va l'avance. Mais même les apôtres de Jésus ont contesté pour lui, mais Jésus, comment elle peut laisser ce parfum à celui-là. Jésus a subi toutes sortes d'oppositions. S'il devait répondre à chacun, il allait répondre à tout le monde, alors au monde entier. Parce que tout le monde devait trouver. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui avait toujours tombé? Pendant
18 ans, Jésus le guérit. La guérit, c'était une femme.
Et il y a des gens qui...
Non, mais comment il peut guérir le jour du sabbat?
Donc il y a des gens, au lieu de regarder la main de Dieu, ils sont dans leur logique de la loi.
Ah mais non, c'est le jour du sabbat, on n'a pas le droit de faire ça tout le temps.
Quelqu'un guérit. 18 ans, il était malade.
C'est comme si tu vois quelqu'un affamé en chemin, tu lui donnes la nourriture à manger, un chrétien te dit, mais il fallait prier avant de lui donner la nourriture. Mais déjà qu'il mange,
qui est-ce qui refuse qu'on prie? Donc,
bien aimé, ne perdons pas notre temps.
Il y a beaucoup à faire.
N'entrons pas dans le piège du diable de nous distraire par autre chose. Certains croient que pour servir le Seigneur, il faut une grande salle.
Non!
Ou il faut je ne sais quelle voiture ou je ne sais quelle organisation.
Non!
Avec le peu que le Seigneur va donner, servons le Seigneur. C'est ça. Prenons cet engagement au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prendre cet engagement de te servir. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, nous ne dépendons pas, Seigneur. Nous ne voulons pas dépendre des humains. Nous ne voulons pas dépendre d'une salle ou bien d'un système. Non, Seigneur, nous voulons te servir tel que c'est dans la Bible, Seigneur. Tu nous appelles à être loin du Saint-Esprit pour aller annoncer le royaume de Dieu. Seigneur, nous voulons être loin afin que tu sois notre chef, Seigneur, complètement conduit par le Saint-Esprit dans toute la vérité, Seigneur. Car tu as besoin de véritables chrétiens, loin par le Saint-Esprit, pour sauver tant de personnes qui se meurent dans le péché, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je viens de dire, sers-toi de moi, sers-toi de nous, Seigneur, selon ton bon vouloir. Nous refusons de te contrôler. Nous refusons de dépendre de ce que les gens vont dire. Quand Jésus était parti chez Zachée, les gens ont parlé. Ah, il est parti chez un pécheur. Mais toi, tu étais parti pour le sauver, Seigneur. Si tu devais écouter les gens, tu n'aurais pas sauvé Zachée. Tu n'aurais pas sauvé la prostituée, Seigneur, qui était venue dans Luc 7, essuyer tes pieds avec ses larmes. Elle a été sauvée parce que tu n'as pas regardé à tout ce que les gens disaient. Mais tu as regardé à ta tâche qui était de venir sauver, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Seigneur, aide-nous à ne pas être distrait, à être concentré sur notre tâche. Chercher à sauver ce qui est perdu. Chercher à être des instruments d'adoration et de louange pour toi, Seigneur. C'est ça notre tâche. En commençant par nous-mêmes, nos familles et ainsi de suite. Nous nous engageons. Je m'engage, Seigneur. Et je sais que tu vas m'aider quand tu es bon. Et je veux jamais un jour, je refuse, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas un jour dire j'ai beaucoup fait. On continue à faire toujours jusqu'à la mort, Seigneur. Parce que toi, tu n'as pas regardé à la dépense pour nous sauver. Merci, Jésus, car tu es notre exemple parfait. Merci, Seigneur, pour ce temps de prière. Nous sanctifions tout ce que nous allons prendre tout à l'heure. Et que tout soit fait pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est aussi l'ancien Zéchef que tu as des annonces. Ah oui, on a un temps de jeûne et de prière demain pour consacrer cette question. Une pas de aussi en même temps. Donc on va continuer à...